depuis Saint-Imier, donc aux rencontres internationales anti-autoritaires, toujours à Saint-Imier, du 19 à aujourd'hui. Nous arrivons tout gentiment à la fin de cet événement. On en profite pour remercier les organisateurs et tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cet événement soit grandiose. Et nous continuons nos interviews avec Gabriel, un sociologue,
Bonjour.
théoricien, praticien,
On peut le dire, oui.
qui va se présenter à lui-même. Hello Gabriel.
Alors bonjour, donc je m'appelle Gabriel Binder, j'ai pas besoin de cacher mon nom de famille, je suis effectivement travailleur social.
Et travailleur social.
Voilà, je me suis formé il y a 40 ans, je suis rentré en formation. Donc il y a 40 ans de pratique du travail social, j'ai aussi travaillé un peu dans le milieu de l'asile, la toxicomanie, milieu syndical à Genève, puis j'ai repris des études de sociologie, d'histoire économique, de développement local, de politique locale. Donc ça fait très longtemps que je m'intéresse aux questions de démocratie, de répartition du pouvoir, de renforcement des solidarités locales, etc.
Parfait, donc polymorphe, on va pouvoir parler de tout. Mais avant de commencer notre discussion, qu'est-ce que tu fais ici à Saint-Imier?
Alors, je crois que dans mes études, non, avant mes études, j'étais tombé là sur des écrits de Bakounine, puis ça avait été un peu, pour moi, un peu une révélation. C'était un peu ce que je cherchais à comprendre, parce que j'avais grandi dans un milieu plutôt catholique, conservateur, un peu patriarcal, 7 enfants en famille, voyez, c'était un peu le pouvoir comme ça. Et puis, je sentais que c'était fou. Et j'avais une certaine allergie au pouvoir non légitime, aux abus de pouvoir, et notamment des instituteurs à l'époque.
Ah,
Voilà. C'est ce
voilà.
qui m'avait ouvert les yeux très tôt sur les abus du pouvoir de l'instituteur institué, voyez un peu
Oui.
l'anglais. Voilà. Et
Une
puis,
baguette sur les doigts.
voilà. Et l'utilisation, ben, ça va toujours ensemble, hein. Le pouvoir non légitime utilise toujours au final de la violence pour pouvoir s'imposer, puisqu'il n'est pas légitime. Donc, notamment la violence du pouvoir illégitime et notamment de la violence de l'adulte sur l'enfant, de l'instituteur sur l'enfant. Donc j'avais cette sensibilité. Donc j'avais refusé d'ailleurs de faire l'armée pour ce même type de raisonnement. Et c'est seulement après que j'ai découvert, si vous voulez, d'abord Bakounine, puis là je me suis intéressé à la controverse Marx-Bakounine. J'en ai fait des travaux de séminaire. Puis depuis 40 ans, ça guide un peu ma réflexion.
D'accord.
Donc c'est un peu évident que je vienne ici à l'occasion de ce 150e anniversaire du congrès qui a fondé le socialisme anti-autoritaire.
Et comment ça s'est passé ton week-end ici?
Bon, moi je suis déjà impressionné, admiratif de tout ce qui existe, tout ce qui se développe. Je ne m'attendais pas à un événement d'une telle ampleur, d'une telle taille. Donc ça, c'est pour les aspects, j'irais, positifs. Les aspects un peu, pas négatifs, mais qui m'ont un peu surpris, c'est que j'ai l'impression que le mouvement anarchiste vire un peu dans la marge, dans l'alternative, dans la marge. Et je trouve qu'on a peu ici des organisations actives vraiment dans le domaine de l'aide au tiers-monde qu'on avait, ou le syndicalisme, ou les partis. On a l'impression qu'ils virent un peu comme ça, dans une marge et dans une marge un peu culturelle aussi.
C'est vrai. On est deux hommes blancs de plus de 50 ans, sans doute, 6. Et c'est vrai que les nouveaux combats, évidemment, sont à la marge. Il y a des nouveaux combats qui émergent. On ne va pas poser un jugement sur ces combats, mais c'est vrai qu'on trouve. Les institutions, on va dire, habituelles sont moins présentes. C'est
Et
clair.
puis, bon, ce qui m'a surpris, mais à la fois enthousiasmé, j'avais peur que ce soit un peu la réunion d'anciens combattants. Et puis, j'ai été surpris de la vivacité, du nombre de jeunes. Ouais, c'est très jeune, la participation, quoi. Il y a énormément
Oui.
de jeunes, c'est
Ah oui,
impressionnant.
c'est très jeune. Quel a été ton parcours de...
Donc, moi, j'ai d'abord, je me suis formé comme assistant social. Voilà, c'était mon premier job. J'ai travaillé des réfugiés dans le domaine de l'asile. Juste pour vous dire ce qu'était le domaine de l'asile politique il y a 40 ans, ma clientèle, on pourrait appeler ça comme ça, était composée de Roumains, de Polonais, de Hongrois, de Chiliens, d'Argentins, oui, c'était l'asile il y a 40 ans,
Eh
et
oui.
quelques, hélas, quelques Kurdes.
Déjà.
Voilà. Mais je travaille dans le domaine de l'asile et non pas pas avec des requérants d'asile, mais avec des personnes qui avaient obtenu l'asile politique. Il y avait aussi des gens de l'Asie du Sud-Est, et mon job, c'était aussi d'aider certains réfugiés qui renonçaient à l'asile et qui voulaient rentrer au pays. Parce que la démocratie était revenue, notamment des Boliviens ou des Chiliens. Ça, c'était mon premier job. Après, j'ai travaillé dans le domaine de la toxicomanie. Au tout début du sida, commençant à en parler, c'était 84 ou 5, je crois. On commençait à en parler, cette maladie. On commençait. Le sida, ça fait. C'est une crise qui a révélé ce qui était caché, notamment la toxicomanie, les échanges de seringues, l'homosexualité et les pratiques, et la prostitution. Donc, c'était. Le sida a retourné un peu la table, et j'ai assisté à ces événements. Et puis, je travaillais aussi au site, au syndicat, mais là, il y avait la CRT qui était influencée encore par la CNT, les syndicats anarcho, le
Oui,
modèle un peu anarcho-syndical.
CNT,
Voilà.
oui.
D'ailleurs, on avait les mêmes couleurs, la CRT avait repris les couleurs de la
C'est vrai
CNT.
qu'on a interviewé mercredi.
Ah, voilà. Et puis, par la suite, je suis allé en Amérique latine. Là, j'ai vu au Nicaragua la différence entre les libertaires et les communistes. Et c'est en 88, je me suis rendu compte que j'étais définitivement pas du côté des communistes. Lorsque j'ai vu des manipulations énormes lors du 1er mai, où le slogan du 1er mai au Nicaragua, c'était « Un gréviste est un ennemi de l'État, un allié objectif des Américains ». Voilà.
Ah ouais.
Moi, je me disais, c'est quand même un peu bizarre que le mouvement syndical soit marginalisé, puis que le 1er mai était célébré par l'armée, quoi.
Allez, on
Et
peut.
puis, deuxième rupture, c'était moi qui étais plutôt antimilitariste, ou en tout cas pour un service civil, on
C'est
se
là où
battait pour
j'étais.
ça.
T'as fait un peu de tôle, j'imagine
Oui, à
aussi.
l'époque, j'en avais fait, j'ai quand même, c'était quand même à 6 mois. Mais le mouvement sandiniste avait instauré le service militaire obligatoire, et puis il y avait. Des traîtres, c'était les pacifistes ou les antimilitaristes. Voilà. Alors par la suite, j'ai repris des études en sociologie et puis plus tard en histoire économique. Et j'ai eu après des charges d'enseignement. J'ai fait à peu près 30 ans d'enseignement du travail social à des animateurs socioculturels pour qui des thèmes comme l'autogestion, le renforcement du pouvoir, la démocratie locale, les décisions horizontales, c'est un peu le pain quotidien, si vous voulez, l'action directe, non violente,
Absolument.
c'est un peu la Bible du bon animateur social.
Exactement. Donc, tu as une vision pluridisciplinaire de toutes les problématiques, de toutes les luttes, de toutes les problématiques qui peuvent se poser. Est-ce que c'est plus facile ou il vaut mieux avoir des spécialistes dans chaque domaine et puis travailler avec eux?
Non, moi je suis persuadé que la spécialisation généralisée, c'est le crétinisme généralisé. Là, je cite Edgar Morin, le vieux Edgar Morin, d'accord?
Absolument, je suis
Donc, moi,
d'accord avec toi, c'est pour ça que
pour ça,
ta réponse m'intéresse.
c'est-à-dire qu'il faut absolument métisser les compétences. Et j'ai assisté une fois à l'université à une semaine de créativité où on mettait ensemble des théologiens, il y avait théologiens, chimistes, juristes, donc des gens de toute discipline. Et puis, on disait, mais vous les théologiens, vous ferez comment la transformation galénique des produits, quoi. Donc je ne sais même pas ce que c'était. Et puis il disait, oui, mais il y a l'esprit, tu vois. Et puis tout à coup, l'esprit de Dieu, puis il retrouvait ça dans la pilule, puis ça donnait des idées aux chimistes. Donc là où je crois que l'anarchie aurait beaucoup, beaucoup à apporter, c'est dans sa vision qu'on peut trouver un ordre sans État. Mais moi, j'irais plutôt dire un ordre sans État, c'est un ordre sans violence. Moi, l'anarchie, ça serait trouver un ordre sans violence.
Sans violence, un
Voilà.
ordre sans pouvoir, un ordre.
Sans pouvoir, c'est mais avec un pouvoir, mais le pouvoir est réparti. Et dans mes études d'histoire, en histoire économique, je me suis beaucoup intéressé à la gestion des biens communs dans les Alpes, Valaisanne notamment, au 18e et 19e siècle. Et quelque chose qui inspire d'ailleurs le mouvement anarchiste, c'est les communs. Comment on gère les biens communs? Comment on gère...
Comme l'eau, par exemple, hein, si tu me disais ça.
Ben, l'eau. Par exemple, les bis, on va... les premiers bis, par exemple, le bis du Levron, sauf erreur, l'association, les consorts, c'est comme ça qu'on appelle, les consorts. Donc, c'est les gens qui se réunissent ensemble. Ils ont le même
D'accord.
sort, d'accord? C'est pour
Ouais,
ça qu'on dit ils partagent le
absolument.
même sort, donc c'est des consorts.
C'est vrai.
Ils se réunissent, ils vont négocier des droits d'eau et ils créent le bis. C'est en 1475. 600 ans plus tard, bientôt 600 ans plus
Le
tard,
bis est toujours là.
le bis est toujours là. Et il fonctionne sur le même principe. Donc c'est possible sur la durée. Et pourquoi ça marche? C'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de dissension. Ils ont besoin de tout le monde. Et comme ils ont besoin de tout le monde,
C'est de la blockchain avant la blockchain.
mais c'est un peu ça, c'est comme ils ont besoin de tout le monde, dans les règlements, ils disent toujours, on cherche un règlement pour nous éviter de la dissension, pour éviter les procès. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent, à quoi ils doivent aboutir? La première chose, c'est que ça doit être équitable. Alors, en gros, à chacun selon son effort. Donc, des familles plus grandes peuvent fournir plus de travail, donc elles auront un peu plus de droits d'eau. Mais alors, et puis la deuxième chose, c'est pour éviter la prise de contrôle d'un groupe, c'est que toutes les charges, elles sont tournantes. Alors, la charge de gardien du bis, ben, c'est 2 ans.
Nettoyage du bis, c'est ça, ils se répartissent toutes les tâches au prorata de.
Oui, mais il y a aussi des tâches de contrôle. Il y a par exemple des tâches, par exemple, de vérifier que le règlement soit bien appliqué et amender ceux qui ne respectent pas le règlement. Alors, ça, on appelle ça les charges ayant. Donc, ceux qui ont une charge de police, si on veut. Alors, c'est une charge qui a beaucoup de responsabilités. Donc, elle est réattribuée tous les 2 ans à une nouvelle famille. Comme ça, on est sûr que la famille n'abuse pas, parce que si elle abuse, elle va se faire massacrer par les charges ayant suivants. Donc, finalement, des fois, il y a des réunions en disant, mais mettez quand même un peu plus d'amende, quoi. Soyez plus autoritaire.
Tout s'autorégule
Voilà.
presque horizontalement.
Et ça, si ça fonctionne durant 6 siècles, c'est que c'est un modèle pérenne. Je ne connais pas d'autres organisations qui fonctionnent depuis 6 siècles.
Bien, tu vois, c'est un bon exemple, parce qu'évidemment, dans les milieux libertaires ou anarchistes, on se demande souvent pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi ça n'a pas marché. Les valeurs cardinales de l'anarchisme, quand on les présente une par une, je pense qu'on arrive assez facilement à une adhésion d'à peu près tout
Alors,
le monde.
je suis tombé sur un petit livre parce que je te vois là avec le badge, la Commune de Paris. Pierre Arnould était un enseignant, je crois géographe, pas un brillant intellectuel, un enseignant. Il est réfugié à Suisse, et la Commune, et il écrit un petit livre qui s'appelle L'État et la Révolution, et son petit livre, c'est vraiment des leçons. Professeur, donc il donne ses leçons. Et dans une des leçons, il explique que l'anarchie est possible puisque la Suisse vit l'anarchie. Et c'est très étonnant, il faut le repasser dans le contexte, mais lui qui a comme modèle des dictatures, et puis il voit un État qui est basé sur le pouvoir de la commune, où il y a des cantons qui sont catholiques, des cantons qui sont protestants, des cantons qui parlent français, des cantons qui parlent... Et ensuite il dit, mais dans des cantons, il y a des communes qui parlent allemand et des communes qui parlent français, alors il fait des calculs. Il y a même des petites tabelles en montrant, si on avait dû faire voter, quelle est la langue nationale, ben, ce serait l'allemand. Bon. Par contre, il posait la question à quelle échelle doivent être prises les décisions. Et ça, c'est un thème passionnant. À quelle échelle doivent être prises les décisions? Est-ce que c'est à l'échelle de la rue? C'est à l'échelle du quartier, de la commune, du canton, de la confédération ou du monde?
C'est intéressant, enfin, ce que tu amènes aujourd'hui au RIA. Donc, en gros, on peut imaginer que la Suisse, c'est un fonctionnement. On va dire, avec des valeurs anarchistes réussies, on va dire.
Après, il faut faire attention de ce côté-là. La Suisse s'est toujours méfiée du pouvoir fort et s'est toujours méfiée de l'État. Donc, elle a réussi à régler ça par le fédéralisme et puis en redistribuant aussi le pouvoir symbolique. Quand vous expliquez à un Français qu'il y a deux grandes universités fédérales, une à Zurich puis l'autre à Lausanne, ils disent, mais il n'y a pas à Berne. Non. Puis quand vous dites, alors maintenant, le tribunal fédéral est à Lausanne, il dit, mais il n'est pas à Berne. C'est que les Suisses, lorsqu'ils sont fédérés, parce que On ne faut pas oublier que les fédérés, le mur des fédérés, c'est le mur des communards, hein, les fédérés.
Absolument, ouais,
Donc
absolument.
lorsque les Suisses se sont fédérés, se sont confédérés, ils avaient la terreur qu'un canton puisse prendre le pouvoir sur les autres. Voilà. Donc je dirais pas que c'est un réflexe anarchiste, mais c'est une peur du contrôle et de l'État.
Là aussi, oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'en déplaçant le niveau auquel on prend les décisions, le fédéralisme, le multipartisme à tous les niveaux de la société, ben évidemment, ça auto-régule toutes les déviances. Et puis, on l'a vu en Suisse, où on a même mis Blocher au pouvoir pendant quelque temps, sans que ça pose de problème fondamentaux.
Non, mais après, il a été exclu du pouvoir parce que sa manière de faire du pouvoir ne correspond pas. Je me souviens de Pascal Couchepin qui, lui, représente vraiment, d'accord, un autre modèle. Hein. C'est le modèle républicain, État fort, mais un État fort dans ses prérogatives régaliennes, mais avec un sens de la justice. Un État vrai, très 19e siècle, comme ça, hein, bon. Et un homme qu'on peut vraiment classer sans aucune hésitation à
À
droite.
droite, ça
Voilà.
c'est sûr.
Un homme de droite. Mais qu'est-ce que dit Couchepin? Il dit, Blocher n'est pas dans notre modèle politique. Il n'y a pas de place, et je me rappelle très bien cette phrase, pour des coups de menton en Suisse. C'est-à-dire que le modèle suisse n'est pas un modèle qui est calibré pour un homme fort. Donc Blocher a fait 4 ans au Conseil fédéral, puis il a été éjecté.
C'est une forme de. En tout cas, le fédéralisme suisse, justement, il permet de niveler tous les extrêmes. Alors, il y a ces côtés négatifs, un peu attentistes, on va dire, quelquefois, mais ça permet aussi, justement, d'éviter les prises de pouvoir et tous les extrémismes. Et je pense que c'est un bon point que tu amènes ici.
Alors, ce que je pense, là où l'anarchisme, c'est pour ça que dans sa version anti-autoritaire, elle devrait absolument pénétrer, se métisser, envahir tous les lieux de pouvoir. Et je pense surtout, quels sont les plus grands lieux de pouvoir aujourd'hui? C'est l'éducation, la santé, là, les assurances sociales, pour favoriser l'empowerment, le pouvoir aux patients, le pouvoir aux élèves.
Oui, mettre des doses d'autogestion un peu partout. Quels sont tes projets du moment?
Bon, par exemple, je travaille là depuis une dizaine d'années dans un hôpital psychiatrique où j'ai eu la mission, on m'a accordé, ou j'ai pris la liberté de créer au milieu d'un hôpital psychiatrique, dans des friches, parce que les hôpitaux psychiatriques se sont beaucoup sectorisés. Donc une bonne partie des soins ne se donnent plus à l'hôpital. Donc on n'a plus besoin d'hôpitaux aussi grands. Donc il y a une partie qui est à l'abandon. Donc récupérer ces espaces à l'abandon pour en faire un espace culturel. Donc une résidence, un hôtel, un théâtre, une galerie d'art, et donner de la place à des artistes pour en faire. L'hôpital, c'est un peu, selon Foucault, une hétérotopie. C'est-à-dire, c'est un monde autre, à côté de la société, et qui est très marquant. Foucault disait la plus grande hétérotopie, c'est le cimetière. Hein, parce qu'au cimetière, on vit vraiment pas comme dans le reste du monde,
Ça c'est
sûrement,
sûr,
sûrement l'espace pour les
on a
morts.
d'autres règles.
D'accord? Alors, le cimetière, la prison, l'hôpital psychiatrique, la caserne, sûrement des hétérotopies, sûrement des mondes marqués par cette frontière. Puis quand on entre, on est marqué, on est stigmatisé. Alors comment, à l'intérieur de cette hétérotopie, créer encore une autre hétérotopie qui viendrait comme annuler? Et cette autre hétérotopie s'appelle le quartier culturel de Malévaux. Et puis, il y a une résidence d'artistes, il y a des spectacles. Et depuis peu, on a encore récupéré les jardins. La production permacole, transformation de produits aussi à la marge, de produits un peu à
Magnifique.
l'abandon.
Ah
Donc
oui.
on les transforme et circuits courts, puisque la grande partie des produits sont vendus dans notre épicerie buvette qui se trouve à l'hôpital. On vend,
Génial.
voilà. Et puis un autre projet qui vient de démarrer, qui est venu, qui est un peu typique du type de projet que je soutenais en tant qu'animateur. Il faut surtout rien faire pour empêcher les bons projets de se réaliser. C'est un artiste qui avait écrivain, qui avait travaillé dans une radio en Argentine, là, Radio Colifata, une radio de patients, qui cherchait un lieu pour rédiger un texte, un roman qui se passerait en partie dans cette radio, donc a demandé une résidence à l'hôpital. Puis nous, on a comme principe, si vous avez une résidence, il faudrait que vous ayez une activité avec les patients. Alors ils disent, ben, je pourrais faire des ateliers d'écriture. Je dis, mais pourquoi pas des ateliers de radio, puisque un infirmier rêvait depuis très longtemps de créer une radio avec des patients. Et j'avais été contacté par d'autres personnes, je pourrais dire des anciens de la RTS, à qui démangeaient de faire une espèce de radio plus participative. Et ces trois volontés se sont fédérées dans un projet qui s'appelle Pavillon Nomade. Alors on va commencer gentiment. Produire de l'intelligence collective
C'est
sur les
merveilleux.
ondes.
Donc, si vous avez du contenu, on pourra peut-être l'échanger, le passer sur Libre Radio, ou peut-être qu'on viendra vous voir où vous soyez pour faire une émission de radio
Serait très bien. On a besoin de
ensemble.
conseils techniques en ce moment, puisqu'on est au démarrage.
On est des amateurs, hein,
Non, mais je pense que c'est mieux dans des conseils techniques d'amateurs, qui seront peut-être plus de notre calibre que des conseils techniques
Oui. Ouais, on est des amateurs,
de
mais on est
l'ASSR.
déterminés.
Ouais.
C'est-à-dire, on lâche pas l'affaire.
Voilà.
Parfait, ben écoute, merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée auquel tu aurais voulu répondre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter?
Non, je crois qu'on n'a jamais fait le tour du sujet, mais on a vu que il y en a sous la semelle.
Absolument, merci. Merci pour ta contribution au RIA, c'est très apprécié. Et puis, bonne fin des RIA et à
Merci.
bientôt.
Ah, peut-être dire aussi que RIA, c'est aussi Rassemblement international de l'animation socioculturelle. Donc, c'est la deuxième fois que je participe au RIRA.
D'accord. Merci Gabriel et à tout bientôt.